Monsieur Richard Ames. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Bonjour à tous nos frères et sœurs de par le monde. Je vous parle depuis Charlotte, dans l'État de la Caroline du Nord. Bienvenue également aux visiteurs que nous avons parmi nous aujourd'hui. Comme vous le savez, aujourd'hui nous observons un jour spécial de jeûne. Notre but en jeûnant est de nous humilier et de rechercher Dieu de tout notre cœur afin de lui permettre de se servir de nous d'une façon plus efficace pour accomplir la grande mission qu'il nous a donnée, travailler à l'accomplissement de son œuvre et de sa volonté. Il nous faut tous nous motiver à montrer plus de zèle pour éviter de tomber dans ces pièges que sont l'autosatisfaction, le fait de nous considérer justes à nos propres yeux, ainsi qu'une attitude laodicéenne. Toutes des attitudes d'esprit qui peuvent si facilement nous influencer et nous rendre insouciants. Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour ses bénédictions et pour son œuvre. Dimanche dernier, je me trouvais dans un hôtel au Canada où j'ai pu voir une de nos émissions télévisées produites dans notre studio de Charlotte. Au Canada, nous passons en ondes 26 fois par semaine, et cela sur 6 réseaux de câbles distribution, certains d'entre eux ayant une couverture nationale. Ajoutons que nos émissions sont également diffusées au Canada en langue française, et cela 2 fois par semaine. À partir du mois de septembre, notre nouvelle série d'émissions télévisées, qui s'est vue reconnaître le statut de contenu canadien, pourra désormais passer en ondes, même aux heures de grande écoute. Monsieur Weston ayant maintenant la citoyenneté canadienne, il lui sera maintenant permis de passer en ondes dans le cadre de cette nouvelle série d'émissions produites au Canada. Quelques autres personnes jouiront de ce même droit. Ainsi, M. Weston, de même que M. Wallace Smith et moi-même, nous continuerons à produire de telles émissions. Cette nouvelle série sera diffusée à l'échelle nationale sur la chaîne Bloomberg. Elle passera aussi dans toutes les villes de la province de l'Ontario sur le réseau City TV. Par ailleurs, pas plus tard qu'hier, vendredi 15 juillet 2016, notre agent de liaison a été approché par le plus grand réseau de télévision au Canada, CTV, qui est disposé à nous accorder d'excellentes ouvertures le dimanche matin. Nous allons négocier un contrat avec eux dans les 2 prochaines semaines. Monsieur Vahovitch pense que ces nouvelles stations nous permettront de doubler l'impact que nous avons au Canada et nous espérons bien sûr qu'il en résultera une croissance de l'œuvre canadienne. Toujours parmi les bonnes nouvelles, le 7 août de cette année, cette nouvelle série d'émissions à contenu canadien commencera à être diffusée sur la chaîne Salvation TV, laquelle couvre le tiers de la partie méridionale de l'Inde. Nous y serons accessibles par câble et aussi grâce à la télévision par Internet. La région couverte compte une population d'environ 400 millions de personnes et le câble dessert près de 30 millions d'abonnés. Mais ce n'est pas tout. D'ici aux 2 prochains mois, nos émissions seront aussi diffusées à Taïwan, où le réseau NetTV dessert 20 millions d'abonnés. Comme vous le voyez, Dieu nous accorde d'accroître notre impact en dépit de nos faiblesses et en dépit de certains problèmes d'égoïsme que nous avons et dont je parlerai dans le sermon d'aujourd'hui. Dieu nous a appelés pour accomplir une mission. Mais comment pouvons-nous accomplir cette mission si nous manquons de zèle? Comme vous le savez, j'aime parfois me livrer à des sondages. Ainsi, combien parmi nous ont-ils suivi une de nos émissions télévisées du monde à venir au cours des 4 dernières semaines, peu importe le médium utilisé. Laissez-moi voir vos mains levées. Je vois. On dirait que c'est le cas pour 70% d'entre vous. Ce n'est pas mal. Cela dit, pourquoi est-il important de regarder ces émissions? C'est parce qu'elles constituent une porte importante que Jésus-Christ nous a ouverte pour donner un avertissement au monde tout en lui annonçant l'Évangile, la bonne nouvelle de l'avènement du royaume de Dieu. Simultanément, ces émissions nous permettent de sensibiliser les nations israélites à leurs péchés et aux conséquences qui en résulteront. Certains parmi les plus vieux d'entre nous avaient l'habitude d'écouter M. Herbert Armstrong à la radio. C'était il y a longtemps. En 1962, alors que je travaillais en tant qu'ingénieur à Norfolk, en Virginie, il m'arrivait régulièrement d'écouter ces émissions radiophoniques de M. Armstrong. Je me souviens en particulier d'une série d'émissions qu'il fit à propos du livre aux Hébreux. On pouvait l'entendre chaque matin, du lundi au vendredi. Je me levais toujours à 5h30 pour ne pas manquer ces émissions d'une demi-heure. On l'entendait aussi chaque dimanche matin. À cette époque-là, je m'intéressais à la prédication de l'Évangile par la radio. Combien parmi nous sont de fidèles auditeurs de nos émissions de télévision du monde à venir? Frères et sœurs, il nous faut nous impliquer pleinement dans cette œuvre que Jésus-Christ accomplit par l'intermédiaire de ses serviteurs. Évidemment, visionner ces émissions ne doit pas être le seul aspect de notre engagement pour l'œuvre. Mais c'est tout de même un aspect important. Dans une lettre datée du 12 juillet 2016, Dr. Meredith appelait l'ensemble de l'Église à observer un jour de jeûne. Dans sa lettre, il décrivait l'un des problèmes de l'Église en disant « Plusieurs de nos pasteurs m'ont fait remarquer que, même si les membres ne quittent pas massivement, même s'il n'y a pas de problème majeur, il n'en reste qu'on ressent parmi nous un malaise d'ordre spirituel. Une sorte de laisser-aller de type laodicéen semble s'être installé parmi nous. Nos membres n'ont plus le feu sacré qu'ils avaient jadis. » Ainsi, frères et sœurs, il importe que nous examinions les changements que nous devrions apporter à nos vies. Il nous faut réévaluer nos priorités. Consacrons-nous trop de temps aux médias sociaux? Passons-nous trop de temps à gaspiller du temps? Comment pouvons-nous changer notre routine? Pourriez-vous prendre l'habitude de méditer, ne serait-ce que 5 minutes, sur votre véranda? Ou encore, pourquoi ne pas vous coucher plus tôt, pour ensuite vous lever plus tôt et en profiter pour lire la Bible avant de vous rendre au travail? Lisez un article de notre magazine Le Monde Demain ou du journal Chaque Jour. Adressez à Dieu des prières plus véhémentes que par le passé. Frères et sœurs, il nous faut, vous et moi, apporter des changements significatifs à nos vies. Humilions-nous. Réclamons les promesses de Dieu. Une de ces promesses de Dieu est donné dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Au cours des dernières décennies, l'Église de Dieu avait pris l'habitude de recourir à un jeûne collectif chaque fois qu'un besoin urgent le justifiait. Nous faisions alors appel à ce verset, un verset où il est question d'une vision et d'un message de l'Éternel que Salomon reçut en pleine nuit. Voyons, 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom... Oui, nous portons tous le nom de Dieu, car nous sommes les appelés de Dieu. L'Ecclésia. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ceci eut lieu à l'occasion de la dédicace du temple. L'arche avait été introduite dans le temple, et le feu de Dieu avait consumé les offrandes que Salomon avait placées sur l'autel, et Dieu avait manifesté sa présence. Tournons-nous aussi vers 2 Chroniques chapitre 6 verset 12, où se trouve la prière de dédicace de Salomon. 2 Chroniques chapitre 6 verset 12. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Le peuple se prosterna alors, tandis que Dieu leur manifestait sa présence et sa puissance. Dieu avait donc dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. » Et c'est là le titre de mon sermon. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. » Je sais, vous allez me dire, « Mais voyons, je prie continuellement. » Bon, soit, je suis content de vous l'entendre dire. Cependant, comprenez qu'il nous faut être plus fervents dans nos prières, si nous voulons sortir de ce malaise spirituel qui nous affecte dans l'Église. Dieu promet de pardonner et de bénir son peuple. Cela dit, je veux maintenant que nous fassions tous notre examen de conscience et que nous dressions l'inventaire de nos péchés, de nos mauvaises attitudes et de nos mauvais comportements en demandant à Dieu de nous ouvrir les yeux. Allons-nous avoir le courage de reconnaître cette tendance à pécher qui est toujours en nous? Avons-nous le courage d'avouer nos péchés? Il nous faut réorienter nos vies et surveiller nos attitudes avec impartialité, sans nous laisser séduire, comme cela peut nous arriver si facilement. Un trop grand nombre parmi nous se sont laissés séduire par de fausses doctrines, également par notre ego, notre vanité, notre égoïsme, ainsi que le péché. En résumé, allez-vous vous décider à faire preuve d'humilité pour le restant de votre vie? Allez-vous faire de votre mieux pour vous rendre digne de votre appel en tant que fils et fille de Dieu, selon ce qui est dit dans 2 Corinthiens 6, verset 16? Il faut nous examiner, comme le livre de Job nous l'enseigne. Nous savons que Job était un homme juste, et même lorsque Dieu permit à Satan de le soumettre à ces terribles épreuves, Job ne porta point d'accusation contre Dieu. Néanmoins, il est apparent que Job s'accrochait trop à sa propre justice, comme il ressort de certaines déclarations faites par Élihu, notamment au chapitre 34. Les trois amis de Job s'étaient longuement efforcés de convaincre Job qu'il devait avoir quelques péchés cachés qu'il ne voulait pas admettre. Mais qui allait résoudre l'énigme? Ce sera Élihu. Il n'était pas l'un des trois. Il était plus jeune. Et notez que Dieu n'allait pas corriger Élihu pour ses commentaires à l'endroit de Job. Tournons-nous vers le verset 31. Job, chapitre 34, verset 31. Car a-t-il jamais dit à Dieu, « J'ai été châtié, je ne pécherai plus. » Verset 32. « Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. » C'est ce que nous devrions demander dans nos prières. Job avait passé par une terrible épreuve. Il avait perdu sa famille. Il avait perdu sa fortune. Certes, sa femme lui resta, mais ce ne fut que pour l'agacer. Il avait aussi perdu ses serviteurs et ses troupeaux. Comme si cela ne suffisait pas, il avait ensuite été affligé physiquement par des ulcères, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Quelle aurait dû être son attitude alors? Il aurait dû se demander exactement ce qu'Élihu exprima au verset 31. Il aurait dû dire, Je ne comprends pas pourquoi j'ai cette épreuve. Je ne comprends pas pourquoi je dois souffrir tant. Je ne comprends pas pourquoi j'ai perdu toute ma famille. Encore une fois, selon Job 34, versets 31 et 32, il aurait dû dire « J'ai été châtié, je ne pécherai plus. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. » Voilà quelle aurait dû être sa prière, et pareillement la nôtre. Nous sommes donc conscients du fait que, individuellement et en tant que groupe, il nous faut montrer plus de zèle et être plus impliqués que nous l'avons été. L'appel de Dieu est important. Nous sommes importants à ses yeux. Dans les annonces, il a été question de cette tragédie à Nice, en France. Et puis, il y a eu d'autres attaques terroristes dans d'autres villes, ailleurs au monde. Au train où vont les choses, nous savons que l'humanité ira au-devant de sa perte. Vous connaissez tous ce verset dans Matthieu 24, verset 21 qui dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ce sera donc un temps unique dans l'histoire de l'humanité. Quelle importance Dieu attache-t-il à vous? La Bible dit qu'à cause des élus, ces jours seront abrégés. Dieu a un plan de salut, et vous et moi occupons une place majeure dans ce plan. Les bombes atomiques qui détruisirent Hiroshima et Nagasaki en 1945 tuèrent instantanément près de 100 000 Japonais. Par la suite, 100 000 autres succombèrent. Nous vivons à présent dans un monde dangereux, un monde doté non seulement de bombes atomiques, mais aussi à hydrogène et à neutrons, ainsi que d'armes chimiques et bactériologiques. Et on parle même maintenant de conduire des guerres dans l'espace. Mais nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes partie intégrante du plan de Dieu. Et le monde devra être sauvé de la Troisième Guerre mondiale. Et il devra être sauvé spirituellement. Prions pour le deuxième avènement de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui caractérise les élus? Nous savons qu'ils ont le Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit tels qu'énoncés dans Galates 5, verset 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il y a cependant une autre chose qui doit nous caractériser. Voyons-la dans Matthieu chapitre 18. Celle-ci s'applique particulièrement lorsque nous jeûnons. Ici, Jésus répond à ses disciples qui lui avaient demandé qui allait être le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 3. « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Il nous faut donc cette caractéristique, l'humilité. Verset 4, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Dieu va donc sauver le monde à cause de l'existence ici-bas de chrétiens convertis, des saints qui sont humbles, des saints authentiques. Mais il ajoute cet avertissement dans 1 Corinthiens 10, verset 12. « Ainsi, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Croyez-vous être de cela? » D'un autre côté, il y a ceux qui manquent de foi et qui sont craintifs. C'est l'autre extrême. On ne doit être ni trop confiant, ni rongé par la crainte. Bien sûr, nous voulons la foi de Christ en nous, mais pas cette crainte qui serait la marque d'une déficience de cette foi. Soyons donc sur nos gardes. Examinons-nous. Analysons notre condition spirituelle. si nous le faisons, il nous fait cette promesse rassurante qui est énoncée au verset 13. Matthieu 18, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » C'est que Dieu veut que chacun de nous puisse être dans son royaume. À l'occasion d'un jeûne, nous nous efforçons de nous examiner, de nous humilier et de pleinement rechercher Dieu. Conformément à notre appel, nous voulons enseigner la justice à la multitude. Daniel 12, verset 3. Nous devons sonner de la trompette pour avertir les nations et les amener à la repentance, tout en les préparant pour le retour de Christ. Pas seulement les nations d'ailleurs, mais aussi l'Église, c'est-à-dire chacun de nous. Dans sa lettre du 12 juillet 2016, Dr. Meredith écrivait « Frères et sœurs, durant ce jeûne, prenons le temps d'étudier, de méditer avec soin à propos de nos faiblesses, de nos lacunes et de nos attitudes laodicéennes, et implorons l'aide de Dieu pour qu'il nous ranime et nous ramène à lui plus que jamais auparavant. Adressez-lui des prières ferventes pour qu'il vous accorde les fruits du Saint-Esprit et plus de zèle, aussi pour qu'il fortifie son œuvre. Ce monde est très malade et il se dégrade à une allure inquiétante. Les nations doivent être secouées afin qu'elles reçoivent un puissant témoignage de la part de la véritable Église de Dieu à propos de ce qui est sur le point d'arriver. Et pourquoi ? J'espère que vous allez lire et au besoin relire cette lettre avec toute l'attention qu'elle mérite. Le jeûne est une bonne occasion de s'auto-examiner. Voyons 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, un verset que nous lisons à l'approche de la Pâque, mais qu'il convient de lire en tout temps. 2 Corinthiens 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Il nous faut donc nous examiner et trouver nos faiblesses et nos péchés. Lorsque nous les aurons identifiés, il nous faudra demander à Dieu de nous les pardonner. Puis il faudra prendre des mesures pour les vaincre. Une bonne façon d'y arriver serait de remplacer les mauvaises habitudes par des bonnes. Lorsque nous confesserons nos péchés, Dieu nous les pardonnera. » Comment devons-nous nous auto-examiner? Eh bien, nous faisons usage d'outils tels que la prière, l'étude biblique, le jeûne et la méditation. Nous nous assurons que nous sommes fidèles dans nos dîmes et nos offrandes et que nous ne manquons pas d'amour envers notre prochain. Accomplissons aussi la volonté de Dieu et veillons à observer ses statuts, ses ordonnances et ses lois. Lévitique 26, verset 46. Il y a encore une autre façon de nous examiner, et nous allons voir cela brièvement dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Là, Jésus évalue chacune des 7 églises qui se trouvaient en Asie mineure. Ces 7 églises représentent aussi, symboliquement, l'Église à travers les âges, de l'époque de Christ jusqu'à son second avènement. Comme M. Armstrong l'a souvent mentionné, les caractéristiques données à propos de ces 7 églises s'appliquent simultanément à l'ensemble de l'Église à travers les âges, y compris le nôtre. À noter cependant que l'attitude laodicéenne serait surtout en évidence à notre époque. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 1, il est question de l'Église d'Éphèse. Quel était son problème? Pourrions-nous refléter ce problème? Verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Lorsque Dr. Meredith parle dans sa lettre d'un malaise spirituel, c'est effectivement de cela dont il pourrait s'agir. Nous avons peut-être perdu notre premier amour, notre enthousiasme pour la vérité de Dieu, son Église, son œuvre, ainsi que pour la mission que Dieu nous a confiée. Examinons-nous par conséquent et voyons si nous sommes toujours enthousiastes dans notre soutien à l'œuvre de Dieu. Voyons à présent ce qui est dit à propos de l'église de Smyrne, au verset 8. On apprend qu'elle a subi des persécutions, qu'elle a été éprouvée, selon ce qui est dit au verset 9, Apocalypse 2, verset 9. « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Verset 10. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Souvenez-vous des avertissements et des exhortations que vous avez reçues. Restez fidèle à Jésus-Christ et à son œuvre, même s'il vous faut pour cela risquer la mort. L'église de Pergame manifestait aussi des problèmes. Satan occupait un trône à Pergame, et il y avait là ceux qui étaient attachés à la doctrine de Balaam. Allons pour cela au verset 14. Apocalypse 2, verset 14. « Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. » Là encore, il convient de nous examiner. La pornographie est l'un des plus grands fléaux de notre technologie moderne qui affecte en particulier la télévision et l'Internet. À en croire le magazine Christianity Today, même des ministres du culte s'y adonneraient. Et vous, êtes-vous facilement tenté par cela? Vous adonnez-vous à pareille immoralité sexuelle? Verset 16. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Puis au verset 18, il est question de l'église de Thyatire. Et le verset 19 dit, « Je connais tes œuvres. » Mais le verset 20 ajoute, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » À nouveau, je pose la question, certains d'entre nous seraient-ils coupables d'immoralité sexuelle? Verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Puis au verset 24 et 25, « À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Ensuite vient le tour de l'église de Sardes. Quel fut son problème ? Christ dit reconnaître ses œuvres, qu'elle passe pour être vivante, mais qu'elle est morte. Puis au verset 2 de l'Apocalypse 3, il lui enjoint d'être vigilante et d'affermir le reste de ses membres qui sont prêts de mourir. J'espère que pareil avertissement ne s'applique à aucun d'entre nous, qu'aucun d'entre nous n'est mort spirituellement, que l'exhortation du verset 2 ne s'applique pas à l'un de nous. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Examinez-vous donc. Comprenez que ces problèmes peuvent exister de nos jours, de même qu'ils ont existé tout au long de l'histoire de l'Église. Voyons maintenant le message de Christ à l'égard de l'Église de Philadelphie. Apocalypse 3, verset 8. « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Nous sommes très reconnaissants pour ces portes qui nous ouvrent. Il y a par exemple celle qui s'ouvrira le 7 août en Inde. Il s'agira d'une émission télévisée réalisée dans notre studio canadien de Mississauga. Mais il faut nous assurer que nous gardons sa parole, ce qui veut dire vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4 et Luc 4, verset 4. Sinon, cela reviendrait à renier son nom. Nous voulons honorer le nom de Dieu, lui qui est le Créateur, celui qui est à l'origine de toute loi et de toute forme de vie, celui qui soutient toute chose et qui a tout planifié, lui, le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Nous honorons Dieu par notre travail, notre attitude, notre comportement. Nous l'honorons dans nos travaux quotidiens, lorsque nous nous acquittons de nos responsabilités en tant que père, mère, enfant, employé et employeur. En agissant de la sorte, nous ne renions pas son nom. Verset 10, Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. C'est ce que la plupart font, mais assurons-nous aussi de nous humilier devant Dieu. Si nous le faisons, il nous assistera de sa puissance, de sa force, de son pouvoir de guérison. Il fortifiera notre foi, notre force spirituelle et notre capacité d'endurer. À nouveau, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Il nous faut donc nous évaluer à la lueur de toutes ces descriptions que Christ fait au sujet de ses églises. Au verset 14 vient finalement la septième et dernière, l'église de Laodicée. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Hélas, cela décrit certains d'entre nous. On n'est ni froid ni bouillant. On se laisse aller. On ne se pousse pas dans le dos comme on devrait. Implorez l'aide de Dieu pour qu'il vous sorte de votre léthargie. Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. On est satisfait de soi-même. On va devoir passer par des épreuves afin de développer du zèle et en arriver à ce degré d'implication et de soumission que Dieu le Père et Jésus-Christ attendent de nous. Comme Christ le dit, verset 19, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Cela dit, que devrions-nous faire? Quel est le message que Christ nous donne pour aujourd'hui? Soyez donc zélés et repentez-vous. Il y a une solution à nos problèmes, et Christ nous la donne. Examinons-nous à la lueur des commandements. Reportons-nous maintenant à 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. Un verset que nous lisons à l'époque de la Pâque, mais qui est valable en tout temps. 1 Corinthiens 11, verset 31. « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Dieu nous pardonnera si nous confessons nos péchés. » À quel point l'humilité est-elle importante? On le sait, durant un jeûne, nous nous humilions. Nous avons déjà lu dans Matthieu 18, verset 4, que quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Je suppose que nous connaissons tous Ésaïe 66, verset 1, mais lisons-le tout de même, car il convient parfaitement à notre étude. Ésaïe 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Considérez en effet l'immensité du cosmos et la place insignifiante que la terre y occupe. Vous n'avez pour cela qu'à regarder les photos spectaculaires que la NASA nous en donne. Le créateur de tout cela ne peut évidemment pas être confiné dans l'espace limité que nous pourrions lui accorder dans notre esprit. Oh, certes, il a accepté que l'Arche de l'Alliance soit pour nous un symbole de sa présence, et il y a effectivement mis sa présence. Eh bien, c'est ce grand Dieu qui ajoute à la fin du verset 2 « Voici, sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Moïse, lorsqu'il était sur le mont Sinaï, s'était prosterné devant Dieu pendant 40 jours, la face contre terre. Il craignait certainement la parole de Dieu. La Bible décrit cette parole comme étant une épée, l'épée de l'esprit. Hébreux 4, verset 12 dit à son sujet, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. » À nouveau, comment témoignons-nous à Dieu notre humilité? Nous avons vu que nous le faisons en jeûnant. Voyez aussi le psaume 35, verset 13, qui rapporte ces paroles du roi David alors qu'il jeûne. Psaume 35, verset 13. « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. » Ici, le terme « humilié » vient de l'hébreu « ana », A-N-A-H, le même terme qui se retrouve dans Lévitique 23, verset 32, où il est question du jeûne associé au jour des expiations. Lévitique 23, verset 32. « Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. » Note du traducteur. Pour ceux que cela intéresse, ils peuvent aussi consulter notre site internet francophone où se trouve un sermon de M. Brochu intitulé « Le jeûne, un outil précieux ». Il est intéressant de noter le contraste que la Bible établit entre ceux qui font preuve d'humilité et ceux qui, au contraire, font preuve d'arrogance. Avez-vous déjà été arrogant? Ou bien connaissez-vous des gens qui le sont? Considérons par exemple le cas de Nebuchadnezzar et de Belshazzar, dont il est question dans Daniel 5. Au verset 18, Daniel dit à Belshazzar, Daniel 5, verset 18, « Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qui lui avait été donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva, et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. » Verset 21. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme aux bœufs de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Nebuchadnezzar avait été averti par Daniel qu'il devait opérer des changements dans sa vie et dans sa conduite. Comme il avait refusé d'agir, il dut faire face aux conséquences. Daniel rappelle maintenant ces choses à Belshazzar, lui disant, verset 22, « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. » Voyez-vous, même s'il était au courant de toutes ces choses, il ne s'était pas humilié. Et nous, y a-t-il des choses que nous ne faisons pas, alors qu'elles ont été portées à notre attention? J'avoue avoir été têtu par moments, et il m'a alors fallu en payer le prix. Dans sa miséricorde, Dieu nous met parfois des obstacles en travers de notre route. Il nous soumet à de petites épreuves pour nous ramener dans le droit chemin. Il y a aussi les leçons de l'histoire dont nous pouvons profiter. Et puis, il y a les avertissements qu'il nous donne par le biais de son ministère. Il ne faut pas faire la sourde oreille à tout cela. Notez l'exhortation qui nous vient de Jean, chapitre 10, verset 27. Voilà l'exemple qu'il nous faut suivre. Jean, chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Ainsi, écoutez-vous la voix de votre berger? Écoutez-vous Dr. Meredith, qui vous parle à travers ses messages et ses lettres, ainsi que ses articles que nous publions à l'usage de nos membres? Il nous faut être réceptifs à ces exhortations. Voyons cet exemple d'arrogance qui nous est donné dans Actes chapitre 12. Entre parenthèses, Proverbe 14, verset 26 dit que « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. » Dieu veut que nous ayons une foi ferme. Il veut nous voir croître dans cette foi qui nous vient de Christ en nous. Assurons-nous cependant qu'il ne s'agisse pas d'une foi en nous-mêmes. Dans Actes 12, on parle du roi Hérode, lequel était tout imbu de son importance et plein de vanité. Actes 12, verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé de vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Veillons donc à ne pas succomber à la vanité, à l'égoïsme et à la tendance de vouloir nous glorifier de notre propre importance. Assurons-nous au contraire de nous humilier devant notre Dieu. Considérez encore cet autre exemple qui nous vient cette fois d'Ésaïe, le chapitre 2. C'est à la fois une leçon d'histoire et un avertissement. Ésaïe 2, verset 11. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Parfois, lorsqu'on voit prospérer les orgueilleux et les vaniteux, on s'étonne que Dieu leur permette de continuer ainsi. C'est aussi ce que nous lisons dans le psaume 73. Pourquoi Dieu accorde-t-il aux riches de prospérer dans ses mauvaises voies? Ce n'est que temporaire. Un jour, il leur faudra passer en jugement, eux aussi. À nous, son peuple, Dieu recommande, verset 10, « Entre dans les cavernes des rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. » À l'inverse, la Bible fait aussi état de héros et d'héroïnes qui n'étaient pas arrogants, mais pleins d'humilité. Pensez à Moïse, dont il est question dans Nombre, chapitre 12. Il ne manquait certes pas d'audace. C'était un homme fort, de fait un général de l'armée égyptienne. Myriam et Aaron avaient dit du mal de lui. Parce qu'ils en étaient jaloux, ils avaient dit, verset 2, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Puis au verset 3, il est question d'une évaluation que Dieu fit à propos de Moïse. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Certes, Dieu ne fait pas un tel commentaire à propos de nous. Cependant, si nous sommes disposés à nous humilier devant lui, en tant que son peuple, il nous pardonnera et nous bénira. Voyons maintenant Philippiens chapitre 2. Moïse n'était pas le seul à être humble, selon la Bible plus que toute autre personne de son temps. Christ aussi l'était. En effet, lui, le Logos, s'était volontairement départi de sa gloire et de sa puissance pour venir dans la chair en tant que descendant de David. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ainsi, Jésus était humble. Moïse l'était. Et la Bible affirme que même Dieu s'est humilié. Voyons-le dans le psaume 113. Comment faut-il comprendre cela? Voici, Dieu existe de toute éternité, et il est tout-puissant et rempli de gloire. Il est omnipotent, omniscient et omniprésent, et, malgré tout, il s'intéresse à ces pauvres petites créatures que nous sommes. Pourquoi? Parce qu'il est amour, et que dans son amour, il a conçu un plan pour nous. Voyons psaume 113, verset 4. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Ici, la version anglaise dit littéralement qu'il s'humilie au point de jeter les regards sur les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Considérez que le Dieu Tout-Puissant, dans sa grandeur céleste, connaît même chaque cheveu que nous avons sur la tête, qu'il est même conscient de tout passereau qui tombe à terre. Et il ajoute que nous valons bien plus que des passereaux. Donc, Dieu prend soin de nous, il nous aime, et nous témoigne sa miséricorde. Veuillez à présent vous reporter à 2 Chroniques chapitre 20, où nous trouvons l'exemple d'une personne qui recherchait réellement Dieu. Comment fait-on cela? Eh bien, on passe du temps à genoux. On jeûne. On lit la parole de Dieu avec une crainte respectueuse. Bref, on lui adresse des prières ferventes. Le roi Josaphat se sentait menacé parce que les armées de Moab et d'Ammon s'étaient assemblées pour lui faire la guerre. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson-Tamar, qui est En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Verset 4. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Ce n'était donc pas une pensée éphémère de sa part. Il s'était décidé à rechercher l'Éternel, à lui consacrer du temps, et même à proclamer un jeûne dans tout Juda. Dans sa lettre du 12 juillet, Dr. Meredith cite des passages d'une lettre qu'il avait reçue de l'un de nos ministres qui œuvre ici à Charlotte. Ce ministre se référait à une réunion qui s'était tenue dans nos bureaux, et il avait apprécié certains des commentaires que Dr. Meredith avait faits à cette occasion. Ce ministre lui écrivait donc, et je cite, J'ai été agréablement surpris aujourd'hui d'entendre vos références à Josaphat. Cette semaine, j'avais moi aussi fait une étude personnelle à son sujet, et j'avais alors été frappé par ce qui est dit dans 2 Chroniques 20, verset 3, où Josaphat avoue que, dans sa frayeur, il s'était disposé à chercher l'Éternel et avait publié un jeûne pour tout Juda. En relisant cette proclamation qu'il avait faite à propos d'un jeûne national, et en situant cela dans le contexte de nos problèmes récents à Charlotte, ainsi que d'autres situations dont j'ai connaissance et qui prévalent ailleurs, dans diverses congrégations, cela m'a rappelé que nous n'avons plus observé de jeûne collectif depuis un certain temps. Dans le passé, nos jeûnes étaient souvent associés à un événement. Cependant, comme vous l'avez sans doute remarqué, il semble que depuis quelque temps, nous subissons des attaques spirituelles. De plus, simultanément, on dirait que le peuple de Dieu se laisse aller sur le plan spirituel, et il devient plus susceptible aux offenses et aux rumeurs. C'est peut-être que nous sommes trop distraits par le monde qui nous entoure. Peut-être qu'il serait temps de proclamer un jeûne collectif pour nous permettre, en tant que groupe, de nous rapprocher de Dieu. Certes, cela ne nous fera pas tort de travailler à l'unification de l'Église. Et il est bon pour nous, en tant que groupe, de reconsidérer notre engagement spirituel et de nous concentrer sur le royaume de Dieu et notre effort pour surmonter nos problèmes spirituels. J'ai en effet remarqué que les jeûnes que nous avons eus dans le passé tendaient plutôt à rassembler l'Église autour d'un but commun. Fin de la citation. Ainsi, frères et sœurs, il nous faut nous concentrer sur ce but commun. Il nous faut montrer du zèle pour rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Il nous faut aussi faire preuve d'enthousiasme pour appuyer la prédication de l'Évangile. Il nous faut rechercher Dieu en lui consacrant plus de temps durant la journée. Pensez au changement qu'il nous faut apporter à nos vies, à nos priorités et peut-être même à notre routine. Dans le magazine Living Church News de juillet-août 2011, M. Richard Sedliacic avait écrit un article intitulé « Nos priorités en tant que chrétiens ». M. Sedliacic avait aidé M. Armstrong et Dr. C. Paul Meredith à produire le cours de Bible par correspondance du Ambassador College. Il est finalement décédé en 2010. Dans cet article, M. Sedliacic mentionne quatre priorités que nous devrions avoir. Les voici. Accordez à Dieu la première place dans votre vie. Accordez la deuxième place à votre famille. Travaillez avec diligence. Servez votre famille spirituelle. Dans la conclusion de son article, il termine avec ce commentaire. Nous avons vu ces quatre priorités. Dieu, la famille, le travail et l'Église. Si nous accordons à chacune l'importance qui convient, sans négliger aucune d'elles, et sans placer nos priorités au mauvais endroit, nous pourrons contempler cette époque où nous nous tiendrons devant Jésus-Christ en tant qu'être spirituel rayonnant de gloire, lorsqu'il reviendra pour apporter la paix mondiale, le bonheur et la prospérité à toute l'humanité. Revenons à 2 Chroniques chapitre 20, afin de mieux nous centrer sur nos priorités. 2 Chroniques 20, verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Il adressa alors une prière à Dieu, reconnaissant bien sûr son autorité, son caractère et sa nature. Verset 6. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Puis il fait la revue des victoires que Dieu a accordées à Israël et à Juda dans le passé. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. C'est alors que Jacaziel, un prophète et serviteur de Dieu, prit la parole et transmit à Josaphat et à Juda le message suivant venant de Dieu. Verset 15. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Verset 17. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Que firent-ils alors? Dieu leur avait commandé de sortir. Vous n'aurez pas à combattre, mais vous devrez vous présenter devant l'ennemi, leur avait-il fait savoir. Alors ils placèrent à leur tête les chantres et les musiciens. Il faut décidément avoir de la foi pour agir ainsi. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Ce n'étaient donc pas des soldats avec leurs épées, leurs arcs et des flèches qui se trouvaient en tête. C'étaient des chantres. Il fallait beaucoup de foi et de courage pour opposer des chantres aux forces armées combinées de ces trois nations qui les affrontaient. Mais qu'arriva-t-il ensuite? Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et, voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Ils avaient désigné ceux qui devaient chanter à l'Éternel. Il leur fallait avoir confiance que Dieu combattrait pour eux. Voilà pourquoi Josaphat s'était décidé à rechercher l'Éternel. De même, dans sa lettre du 12 juillet, Dr. Meredith écrivait « Il est vital pour l'Église et pour l'œuvre qu'à l'époque où nous sommes, nous reconnaissions l'importance pour nous tous de jeûner et de rechercher humblement l'Éternel, comme Josaphat l'avait fait. J'espère que vous tous, que vous soyez ministres ou non, vous allez participer à ce jeûne collectif, car c'est vraiment l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire à l'époque où nous sommes. » Nous sommes fréquemment exhortés à faire preuve d'humilité et à craindre l'Éternel. et nous avons eu bien des sermons à ce sujet. Mais considérons un passage en particulier. Il se trouve dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5 et le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Oui, honorons et respectons. Soyons courtois et polis envers les frères et en particulier les anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Christ est humilié, prenant la forme d'un serviteur. Moïse était humble, en fait plus que quiconque à son époque. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Particulièrement à notre époque saturée d'informations, où il est si facile de se faire enterrer par les soucis de la vie, que nous recommande-t-on? Verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dans le passé, nous avons proclamé des jeûnes collectifs pour l'Église, et nous savons que même des nations ont fait cela à l'occasion. C'est notamment ce qu'a fait le président Abraham Lincoln. Laissez-moi lire sa déclaration qui date du 12 août 1861. Attendu qu'un comité mixte des deux chambres du Congrès a approché le président des États-Unis et lui a demandé de proclamer un jour d'humiliation publique, de prière et de jeûne, pour qu'il soit observé par le peuple des États-Unis, avec toutes les solennités religieuses et l'offrande de supplications ferventes au Dieu Tout-Puissant, pour la protection et le bien-être de ces États, avec ses bénédictions sur leurs bras, ainsi qu'une restauration rapide de la paix, etc. Pareille chose pourrait-elle se produire de nos jours? Nous aimerions prier ainsi, que le Sénat et la Chambre s'accordent et fassent pression sur le président pour qu'il en appelle à un jour de jeûne et d'humiliation nationale et de réconciliation avec Dieu. Mais poursuivons notre lecture de la proclamation du président Lincoln. Et tandis qu'il convient à tous les peuples, en tout temps, de reconnaître et de révérer le gouvernement suprême de Dieu et de se plier avec humble soumission devant ses châtiments, de confesser et de déplorer leurs péchés et leurs transgressions, ayant la pleine conviction que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et priant avec ferveur et contrition pour le pardon de leurs offenses du passé, ainsi que pour sa bénédiction sur leurs actions présentes et à venir, etc. En foi de quoi, moi, Abraham Lincoln, président des États-Unis, je désigne ce dernier jeudi de septembre pour être un jour d'humiliation, de prière et de jeûne pour tous les ressortissants de la nation. En témoignage de quoi, j'ai fait apposer le sceau des États-Unis sur ce document en ce 12e jour du mois d'août 1861. Remarquable cet appel à un jour de jeûne national par Abraham Lincoln, lequel fut aussitôt entériné par le Congrès. Ne serait-ce pas merveilleux si pareille chose arrivait de nos jours? Mais pour le peuple de Dieu, de telles choses arrivent. Nous observons encore de tels jours de jeûne collectif. À quel point êtes-vous intéressé au bien-être de votre nation? À quel point êtes-vous affecté par les souffrances que connaît ce monde et par les péchés de votre propre nation, Récemment, nous avons entendu parler des actes terroristes de 2016 à Istanbul, à Nice, à Paris, à Bagdad, au Bangladesh et beaucoup d'autres villes du monde. Cela doit nous rappeler ces mots de Romains 8, verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Oui, nous prions Dieu afin que vienne son royaume. Il nous faut avoir de la compassion et de l'empathie pour toutes les nations. Reportons-nous à 1 Timothée chapitre 2 verset 1. Nous le savons, il nous faut vivre de toute parole de Dieu. 1 Timothée 2 verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Vous est-il déjà arrivé de montrer de la reconnaissance envers quelqu'un du monde qui aurait fait de bonnes actions? Verset 2. Pour tous les hommes, pour les rois. N'oublions pas que ceci fut écrit à l'époque de l'Empire romain. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ainsi, vous est-il arrivé de prier pour le président Obama des États-Unis, pour Theresa May, le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, et d'autres chefs d'État du monde? Dans une de ses lettres aux co-ouvriers, Dr. Meredith avait cité Ésaïe 59, verset 16, où Dieu s'étonne de ce qu'il n'y ait pas un homme qui intercède. Dieu attend de nous, futurs sacrificateurs actuellement en phase d'entraînement, que nous fassions des prières d'intercession. Voyons à ce propos Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Certes, nous prions les uns pour les autres. On nous demande de prier pour ceux qui ont besoin d'être guéris. Persévérons dans la prière. Quand, dans les annonces, vous apprenez que quelqu'un a été guéri, n'oubliez pas de remercier Dieu pour cela. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu attend donc de son peuple qu'il se tienne à la brèche, qu'il intercède. Dans une lettre récente aux co-ouvriers, Dr. Meredith écrivait « Nous qui faisons partie du corps de Christ, nous devons nous tenir à la brèche pour la défense de notre peuple et faire tout notre possible pour ouvrir leur esprit à la compréhension, dans l'espoir qu'ils se repentiront avant qu'il ne soit trop tard. Dieu nous a accordé la compréhension de son plan d'ensemble et de son intention, non parce que nous serions meilleurs que d'autres, mais afin que nous participions à son œuvre. Il nous faut donc nous tenir à la brèche et intercéder pour l'humanité égarée et séduite. » Dr. Meredith continue en disant « Chacun de nous a la responsabilité de prier avec ferveur pour nos nations respectives et faire de notre mieux pour les réveiller, tandis que nous pouvons encore le faire. Vous savez que Daniel intercéda pour son peuple. Allons brièvement jeter un coup d'œil dans Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10 verset 1. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. Verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Donc, Jésus s'est humilié, Moïse également, et voilà qu'on nous dit que Daniel fit de même. Lui aussi plaida la cause de son peuple. À un moment donné, après qu'il eut confessé ses péchés et les péchés de son peuple, un ange vint se présenter devant lui. Dans Daniel 9, verset 19, nous lisons Daniel 9, verset 19, Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Il confessait donc ses péchés et ceux de la nation. Mais si vous prenez connaissance de la prière de Daniel ou de celle de David, vous pouvez certainement dénoter une sorte de ferveur et d'émotion qui est absente dans certaines des nôtres. Daniel donnait à ses prières une note d'urgence. Alors qu'il priait, l'ange se présenta devant lui. Il intercédait pour son peuple. Il se tenait à la brèche, et, ce faisant, il confessait simultanément ses propres péchés. Il est donc approprié de confesser ses péchés lorsqu'on jeûne, d'en profiter pour faire son auto-examen, et de demander à Dieu de nous montrer ce que nous ne voyons pas. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, nous lisons que Dieu nous accorde une grâce plus excellente. Remercions Dieu pour ce pardon immérité, sa grâce et ses faveurs. La fin du verset ajoute que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Au verset suivant, on lit, verset 7, Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Voilà ce que Dieu promet. Mais il y a bien sûr des conditions à remplir. Personnellement, j'ai réclamé ces promesses. En avez-vous fait autant? Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Je sais que je n'étais pas constant. Je sais ce que c'est. Lorsqu'on est tenté, on veut pécher. On sait qu'on ne devrait pas, mais on se donne toutes sortes d'excuses. On se dit, peut-être que cela me permettra d'acquérir une certaine expérience. Tous ces raisonnements humains. Ne vous laissez pas envoûter par la séduction du péché. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Il faut avoir des principes pour résister au péché. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 9. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il nous faut donc faire preuve d'humilité et confesser nos péchés. C'est ce à quoi nous enjoint 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous avons donc cette promesse de Dieu, à savoir qu'il nous pardonnera si nous faisons preuve d'une attitude repentante. C'est aussi la promesse qu'il nous fait au verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il nous faut donc confesser nos péchés et avoir la foi que Dieu nous pardonnera aussi longtemps que nous accepterons de changer. Recherchez à nouer un contact intime avec Dieu. Donnez-vous à lui de tout votre cœur. Il nous faut changer notre façon de vivre, nos priorités. Demandez-vous, que puis-je changer dans ma vie? Nous devons nous efforcer de montrer plus de zèle, plus de passion et plus d'enthousiasme. Nous avons heureusement les promesses de Christ dans Hébreux 13, verset 5. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ainsi que celles dans Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, ou de l'âge. Nous connaissons évidemment tous des hauts et des bas. Certains parmi nous sont plus constants que d'autres. Efforçons-nous d'être plus zélés et dévoués à notre cause, et plus constants. Dr. Meredith termine sa lettre du 12 juillet en disant « J'apprécierai donc votre entière collaboration et votre zèle à tous. Faisons front commun à l'occasion de ce jeûne. Qu'il vous permette de méditer et de prier avec ferveur pour que Dieu nous rapproche davantage de lui, individuellement et en tant qu'Église. Que Dieu vous guide en tout cela. Priez aussi les uns pour les autres, alors que nous entreprenons cette tâche importante. Frères et sœurs, il nous faut donc prier pour des guérisons, des signes, des miracles, et pour que la puissance de Dieu se manifeste afin de nous permettre de faire croître l'œuvre davantage. Nous ne sommes que des êtres humains physiques, mais Dieu nous a appelés pour une mission spirituelle, et il nous accorde une puissance spirituelle pour l'accomplir. C'est encourageant de se le faire dire, de se faire dire que lorsque nous prêchons la parole, celle-ci aura un effet. Voyons-le écrit dans Ésaïe 55. Ésaïe, chapitre 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il est près de nous maintenant, mais le temps viendra où il y aura une famine de la parole. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Continuons verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà en quoi nous, l'Église, nous pouvons placer notre confiance lorsque nous prêchons l'Évangile pour avertir le monde et lui donnons un témoignage. Dieu nous promet que la parole de Dieu, quand elle est prêchée, ne revient pas à lui sans avoir accompli sa volonté, sans produire des fruits. Ainsi, aujourd'hui, selon Malachie 6, verset 8, prenons la ferme résolution de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec notre Dieu. Prenons aussi la résolution d'apporter à nos vies des changements significatifs. Laissons-nous motiver par un zèle pour Dieu qui nous permettra d'achever l'œuvre qu'il nous a confiée, ce qui précipitera le jour du retour de Christ. Humilions-nous devant Dieu et ne nous relâchons pas dans la prière. Alors il nous entendra et il bénira son œuvre. Il se servira de toute la puissance du Saint-Esprit pour le faire. Donc, priez pour que son règne vienne. Priez pour que Dieu nous fortifie et pour que nous puissions accomplir son œuvre et sa volonté avec enthousiasme, passion et zèle.